les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Un premier cas de fièvre hémorragique Ebola a été enregistré dimanche à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays et agglomération d'un million d'habitants, soit la plus grande ville touchée depuis le début de l'épidémie le 1er août 2018. Le ministère congolais de la Santé exhorte la population à garder le calme. Pour sa part, le nouveau gouverneur provincial, Caroline Zanzou Kasivita, affirme que le patient est un pasteur d'une église chrétienne de réveil qui a eu de nombreux contacts dans la province. Mais le gouverneur Kasivita rassure le public en soulignant que le cas a été non seulement détecté précocement, mais le malade a été isolé immédiatement pour éviter toute contamination additionnelle. Toujours concernant la lutte anti-Ebola, deux responsables communautaires enrôlés dans des campagnes de prévention contre l'épidémie ont été assassinés dans l'est de la RDC dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ce qu'annonce le ministère congolais de la Santé. Les deux agents de la riposte ont été tués chacun à leur domicile entre Beni et Butembo dans la province du Nord Kivu. Contestation au Soudan maintenant, nouvelle violence dans le pays. Des paramilitaires soudanais ont tué dimanche un civil et blessé 7 autres personnes dans une ville au sud-est de la capitale Khartoum. Les précisions de Jean-Roger Bion.
L'incident s'est produit dans la ville d'Al-Souk après un rassemblement d'habitants réclamant le départ de leur ville des forces de soutien rapide, un groupe de paramilitaires. Des habitants se sont rassemblés devant les bureaux du Service national de renseignement et de sécurité soudanais, Nice, pour se plaindre des RSF, a affirmé un témoin. Des membres de RSF ont été déployés et ont d'abord commencé à tirer en l'air, mais ils ont ensuite ouvert le feu contre les habitants, tuant un homme et blessant plusieurs autres personnes, a ajouté ce témoin. Un comité de médecins proches de l'Alliance pour la Liberté et le Changement, ALC, fer de lance de la contestation au Soudan, a confirmé le déroulé des événements. Selon des témoins, les habitants d'Al-Souk ont protesté devant les bureaux du Nice après un raid samedi des RSF dans un centre dédié aux jeunes lors d'un rassemblement en mémoire des manifestants tués dans la dispersion le 3 juin d'un sit-in à Khartoum.
Contestation en Algérie, l'ex-ministre de l'Industrie Youssef Youssefi, poursuivi notamment pour dilapidation de deniers publics, est en détention provisoire depuis dimanche, selon la télévision publique algérienne. Plus de détails avec Morgane Guiriec.
En poste entre 2017 et 2019, l'ex-ministre est poursuivi pour octroi d'indus avantages lors de l'attribution de marchés publics et de contrats en violation des dispositions législatives, dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir, de fonction et conflit d'intérêts. Les dossiers de M. Youssefi et de 10 autres hauts responsables ou anciens responsables algériens avaient été transmis à la Cour suprême, juridiction compétente dans l'enquête visant l'influent homme d'affaires algérien Mahiedine Tarhout. M. Tarhout, proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a été placé en détention provisoire il y a plus d'un mois, en compagnie de son fils et de deux de ses frères, dirigeants de son groupe, pour des affaires de corruption. Depuis la démission forcée d'Abdelaziz Bouteflika début avril, sous la pression conjuguée d'un important mouvement de contestation populaire et de l'armée, la justice algérienne a ouvert une série d'enquêtes pour des faits de corruption et condamné ou placé en détention provisoire d'influents hommes d'affaires et ex-responsables politiques.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Afrique de l'Ouest maintenant, politique au Mali. Dans le cadre du dialogue politique inclusif que le gouvernement malien s'apprête à organiser, un triumvirat a été mis en place. Cela pour que les Maliens puissent discuter afin de ressouder le tissu social. Les priorités du comité consistent à recueillir les avis des uns et des autres pour pouvoir mettre tous les Maliens ensemble. Mais plusieurs partis politiques ne sont pas d'accord avec ce comité et l'organisation du dialogue national. Notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, nous en dit plus.
Le gouvernement, conformément à sa feuille de route issue de l'accord politique de gouvernance, tiendra très bientôt les réflexions sur l'avenir de la nation malienne et ses choix. Un exercice auquel le peuple malien dans son ensemble devrait être associé afin de garantir son caractère inclusif. Baba Akib Aïdara et professeur Djonkuna Traoré, ancien président de la République.
En tant que facilitateur, nous avions écrit à tous les anciens chefs d'État pour demander une audience. Nous allions nous déplacer pour aller les voir, leur présenter nos respects et puis échanger avec eux. Le président Djonkuna a estimé que c'est lui qui devait venir nous voir.
Nous avons échangé sur leur mission, nous avons essayé de voir quelles en sont les difficultés, également quels sont les atouts qu'ils ont, les leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer à se reparler. Notre pays aujourd'hui a besoin de dialogue franc et sincère.
Mais d'ores et déjà, des voix discordantes se font entendre. Modibo Sidibé, ancien premier ministre et président du parti phare.
Le dialogue national est absolument indispensable, mais il y a une démarche. Et cette démarche-là, il faut qu'elle soit respectée. On ne parle pas assez de la gouvernance dégradée en termes de confiance et de crédibilité entre les citoyens et ses dirigeants et la classe politique, y compris la société civile. Qu'on rétisse et qu'on ait nos propres liens de gouvernance et nos propres organes de régulation tels que nous, Maliens, nous les sommes. C'est ça qu'il faut pour notre pays. Si on veut aller au dialogue, tout en voulant maîtriser le dialogue, il n'y aura pas de dialogue national.
La présidente de l'ADEMA Association estime que la principale raison de ce dialogue national est de conduire le Mali vers une révision constitutionnelle. Si Kadiatousso.
Tout ce qui est le principal motif, c'est quoi? C'est de nous amener à réviser notre constitution pour intégrer là-dedans les dispositions de l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. Parce que la communauté internationale qui soutient les rebelles qui ont pris les armes contre l'État malien, c'est parce qu'eux, ils veulent ça. Donc, on veut qu'on tripatouille notre constitution pour mettre ça là-dedans. Nous, on se soulèvera contre ça. Et on appellera le peuple malien à se soulever contre ça. Ça, il faut que ce soit vraiment très très clair.
Certains partis politiques de l'ensemble pour la majorité présidentielle préparent activement le dialogue inclusif. Younous Ameidiko, président de l'EPM.
Le dialogue politique inclusif dont les structures ont déjà été mises en place par le président de la République. Cet accord sera notre bréviaire et le dialogue est en ce moment notre actualité. Concernant le dialogue politique inclusif, que les TDR seront validés dans un atelier avec les représentants de tous les partis politiques. C'est pour cela que les troisièmes assises d'EPM se dérouleront autour de l'appropriation de l'accord politique de gouvernance et la bonne organisation du dialogue politique inclusif.
Le premier ministre du Mali trouve que le dialogue national est nécessaire, voire incontournable. Docteur Boubou Cissé.
Le dialogue politique se matérialise et rentrera dans les jours à venir dans une phase active de consultation à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Politique et dialogue vont ensemble, car la politique dans sa manifestation quotidienne, ce sont les débats d'idées. Allons-nous nous écouter, nous entendre dans un esprit d'empathie? Ou allons-nous plutôt mettre nos cœurs, nos visions du monde à nous en avant? Allons-nous ensemble chercher la vérité ou allons-nous chacun défendre nos vérités?
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Dossier nucléaire iranien, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, soit les trois signataires européens de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, ont appelé ensemble dimanche à arrêter l'escalade des tensions et reprendre le dialogue, selon un communiqué commun. Plus de détails avec Arzouma Compaoré.
Dans ce texte diffusé par la présidence française, Paris, Londres et Berlin se disent préoccupés par le risque que l'accord de 2015 ne se défasse sous la pression des sanctions imposées par les États-Unis et à la suite de la décision de l'Iran de ne plus appliquer plusieurs des dispositions centrales du texte. L'Iran avait décidé en mai, un an après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord international de 2015 visant à limiter son programme nucléaire, de cesser de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi. Alors que nous continuons de soutenir l'accord, sa poursuite dépend du plein respect par l'Iran de ses obligations, écrivent dimanche les trois États européens pour lesquels des signes de bonne volonté sont nécessaires de toute urgence de la part de toutes les parties, souligne la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.
Actualité américaine pour terminer, le président du Guatemala, Jimmy Morales, en but à une forte opposition dans son pays à un éventuel accord migratoire avec les États-Unis, a annulé un rendez-vous prévu ce lundi à Washington avec le président américain Donald Trump. C'est ce qu'a annoncé dimanche le gouvernement guatémaltèque. Le communiqué du gouvernement guatémaltèque précise que le rendez-vous programmé pour le lendemain a été reporté sine die en raison des spéculations faisant état de la possible signature d'un accord migratoire. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.